Bonjour, je prends la parole une minute, s'il vous plaît. C'est juste pour vous présenter un peu le cadre de cette étude, en fait, parce qu'il me semble que c'est important. Donc, ça se situe dans un diplôme qui s'appelle le DIS, diplôme d'état d'ingénieur social. C'est un diplôme de niveau 2 de l'action sociale. C'est pas un diplôme universitaire, de niveau 1, pardon, de l'action sociale. C'est pas un diplôme universitaire et c'est celui qui a remplacé le DSTS, diplôme supérieur de travail social, qui a été évoqué hier. L'étude là qui va vous être présentée rentre donc dans ce diplôme. C'est une étude de terrain qui correspond à ce qu'on appelle le diplôme de formation, donc le domaine de formation, DF2. Il y a trois domaines de formation, une recherche, un article professionnel et une étude. Le DF2, donc, il s'intitule Conception et conduite d'action du DIS, du diplôme d'état d'ingénieur social. Il correspond, deux axes sont mobilisés dans cette étude. Le premier axe, c'est tout ce qui est connaissance, analyse de l'intervention sociale et initiation à la recherche. Un deuxième axe, qui est développement du projet et management. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que les organismes demandeurs de cette étude, vous pouvez en faire partie des organismes demandeurs. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter le collège coopératif. Vous avez une demande d'étude qui est conduite par des étudiants et avec un référent qui les soutient, on va dire, pour mener à bien cette étude. C'est une étude qui est collective, ils sont entre 3 et 5 étudiants. Là, vous voyez, c'était un groupe de 4. Elles sont aujourd'hui 2 présentes. C'est un temps, c'est 175 heures qui sont dédiées à cette étude, qui est pendant un an, qui est conduite pendant un an, et le rapport appartient au commanditaire. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi cette étude vous est présentée? Parce que je crois qu'on est au cœur, on va dire, de notre thématique, hein, avec une question de départ qui était: qu'en est-il aujourd'hui des dispositifs partenariaux et du travail partenarial dans le champ éducatif sur les territoires politiques de la ville? Voilà, je leur laisse la parole.
Merci Sandrine. Je suis pas très habituée à ces micros. Vous m'entendez? Oui. Du coup, bonjour à tous. Cette étude, comme disait Sandrine, a été réalisée en 2013-2014. Elle a été commanditée par l'IFE, par le Centre Alain Savary, et elle a été rendue en octobre 2014. Elle a été réalisée donc pendant notre parcours d'étudiants vers le DEIS, mais nous en parlerons aujourd'hui avec un peu de distance de notre toute nouvelle identité d'ingénieur social qui date de février. Donc Odile Perilla et moi-même, Christine Cheminot, c'est vrai que nous sommes les deux représentantes de ce petit groupe d'études de 4 personnes. Donc l'étude, comme le disait Stéphane tout à l'heure, elle est disponible dans le portfolio qu'il a conçu et elle est aussi disponible sur le site de l'IFE, ife.ens-lyon.fr. Nous remercions donc bien le comité de suivi du séminaire, comité de suivi qu'on a été amené à rencontrer pendant la durée de l'étude, on en reparlera tout à l'heure. Nous le remercions de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui de partager cette étude avec vous. Et nous espérons qu'elle pourra apporter des éléments de compréhension et peut-être ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, voire de travail. Donc, nous allons essayer pendant un temps, à peu près une demi-heure, je crois, peut-être un petit peu plus, de dérouler le sommaire suivant, un petit moment introductif, de la commande au réel. Quelques mots sur le projet d'étude, notre démarche et les définitions auxquelles on s'est attaché, quel accès au terrain, quel échantillon, les rencontres avec les personnes du terrain, les entretiens, la méthode retenue pour le travail d'analyse notamment, et les pistes de réflexion et d'action que nous avons proposées en fin de travail. Nous conclurons et nous espérons ensuite avoir un moment d'échange avec vous.
Donc cette étude de terrain, nous l'avons donc menée à la demande d'Alain Savary entre septembre 2013 et juin 2014. Donc nous excusons aujourd'hui Gaëlle Vattier qui aurait souhaité être présente aussi à nos côtés pour vous présenter ce travail, qui est également diplômée aujourd'hui et qui a été retenue pour des contraintes d'ordre professionnel. Avant de nous plonger au cœur de l'étude de la commande, aux pistes de travail et de réflexion en passant par le terrain, nous souhaitons souligner combien ce travail s'ancre dans l'actualité. En effet, le politique, suite aux dramatiques événements de ce début d'année, se montre plus que jamais préoccupé des dérives possibles d'une jeunesse qui, en perte de repères identitaires, serait de ce fait attirée par de fausses promesses proférées par de faux messies. C'est notamment et surtout sur le champ éducatif, entre politique de la ville et éducation nationale, que le politique questionne les réponses apportées aux jeunes des quartiers populaires, massivement en situation d'échec scolaire, et, pour les plus âgés, largement exclus du monde du travail. Notre étude a été conduite dans une période où se rediscutaient à la fois les contours de la nouvelle géographie prioritaire, avec la fin des contrats urbains de cohésion sociale et la naissance des nouveaux contrats de ville, à la fois la nouvelle carte de l'éducation prioritaire et la redéfinition de ses contours. Autre élément de contexte essentiel, début 2014, les élections municipales redistribuaient les cartes du pilotage local, non sans incidence sur la mise en musique des dispositifs via l'organisation et les priorités d'action redéfinies. Si nous nous permettons de redonner ces éléments de contexte, c'est d'une part pour souligner la pertinence du questionnement porté par le Centre Alain Savary, d'autre part pour apporter des éléments de compréhension et, nous allons tout de suite y venir, au fait que la commande s'inscrivait à un moment où les enjeux nationaux et locaux rendaient difficile, sur le terrain, l'engagement des acteurs politiques et institutionnels. Entre le prescrit et le réel, et nous entrons dans le vif du sujet, l'écart reste toujours le lieu de l'action et de la réflexion.
La commande et le réel. La commande, premier point. Cette commande, un vaste terrain d'aventure ouvert sur 12 territoires CUX. À la suite du séminaire dont on parlait tout à l'heure, ce séminaire Questions vives du partenariat et réussite éducative, celui de 2012-2013, qui a impliqué les coordonnateurs et les responsables des 12 territoires CUX de la région Rhône-Alpes, il s'agira, avec deux ou trois de ces territoires, d'étudier l'impact des dispositifs partenariaux et du travail partenarial dans le champ éducatif pour les personnes directement en contact avec les publics, enseignants des écoles maternelles et élémentaires et des collèges, animateurs, éducateurs, travailleurs sociaux. Cette citation-là, c'était le texte de la commande exacte que nous passait le Centre Alain Savary. Ainsi que nous l'avons souligné dans notre propos introductif, les contextes locaux se trouvaient au cœur d'enjeux multiples lorsque ce travail d'étude leur a été proposé. Les restructurations à venir et donc les incertitudes qui étaient liées aux réorganisations de la politique nationale sur fonds de rationalisation budgétaire, les nouvelles orientations politiques initiées, avec notamment l'impact pour les municipalités de la refondation des rythmes, l'échéancier électoral, tout ceci mobilisait les élus et les techniciens sur des enjeux internes qui étaient peu propices à des sollicitations extérieures en période de turbulences et d'incertitudes qui cristallisaient les jeux et les préoccupations des acteurs locaux.
C'est ainsi qu'au final, c'est au croisement d'interactions entre le CCRA, donc le Collège coopératif Rhône-Alpes, où nous étions étudiantes, l'IFE, et des acteurs locaux, techniciens et élus, qu'une commune a accepté de répondre à la commande d'Alain Savary et donc d'accueillir notre travail d'étude. Pour l'ensemble des raisons évoquées ci-dessus, il a été convenu, en accord avec le comité de suivi du séminaire, que le lieu de l'étude resterait anonyme dans un souci de respect des acteurs. Nous arrivons à notre projet d'étude. Un travail exploratoire nous a permis de construire notre projet d'étude en réponse à la commande, mais aussi en lien avec la philosophie portée par le Centre Alain Savary, un certain sens de l'action que nous partagions. C'est ainsi que nous avons souhaité inviter les professionnels de terrain en lien direct avec les publics à une démarche à la fois critique et réflexive. Partant de leurs témoignages, leurs retours sur expérience, leurs analyses, nous pourrions comprendre les logiques d'action qui guident les pratiques et permettent de comprendre ce qui sous-tend le travail avec les autres. les interactions, les liens dans leur singularité, ce qui ferait force ou faiblesse, les points d'ancrage de ces logiques d'action. Aborder les professionnels concernés en tant que sujet, expert d'un quotidien, porteur d'une expérience et d'une connaissance nécessaire à la compréhension des problèmes, mais aussi comme acteur de leur résolution, était pour nous un prérequis. Notre projet d'étude, remis au Centre Alain Savary en décembre 2013, a proposé, dans cette dynamique, d'apporter des pistes de compréhension des processus à l'œuvre dans l'action des professionnels en lien avec les publics, en s'appuyant sur ce que disent de leur pratique ces professionnels. Dans le double objectif d'une meilleure prise en charge des publics et d'un mieux-être des professionnels, l'un et l'autre allant de pair de notre point de vue.
L'objet de cette étude ne semblait pas, a priori, représenter un réel enjeu pour les institutions. S'il s'agissait d'un enjeu d'action, puisque le travail devait questionner les pratiques des professionnels, il ne semblait ne concerner qu'un niveau opérationnel et ne pas devoir questionner les niveaux stratégiques et politiques de l'action. À ce premier niveau d'analyse, nous avons pu constater, et la suite de notre travail le confirmera, que l'ensemble des niveaux se trouvent non pas articulés les uns aux autres, mais fortement dépendants les uns des autres dans une logique descendante. Notre démarche et les définitions que nous avons retenues. Donc, la démarche que nous avons choisie ensemble, nous avons souhaité, dans un premier temps, démarche validée par notre commanditaire dans le cadre du projet d'étude, associer à notre travail un comité de pilotage ainsi qu'un comité technique qui était censé être constitué des principaux acteurs et institutions locaux. Nous souhaitions en effet qu'un comité technique territorial ouvert aux acteurs des champs scolaires et éducatifs sur la commune accompagne notre démarche. Ce comité technique, outre son expertise et la facilité d'accès au terrain qu'il pouvait représenter, aurait pu préfigurer une instance de débat opérationnel, interinstitutionnel, pour, à la suite de notre étude d'action, accompagner le changement. Cette étude avait pour ambition première de se nourrir des dynamiques partenariales et d'en favoriser l'expression. Ce comité technique n'a pas pu se constituer, compte tenu notamment des éléments de contexte évoqués au départ. Quant au comité de pilotage envisagé, c'est le comité de suivi du séminaire, déjà existant donc, qui en a tenu lieu. Nous avons donc mené seul notre travail, défini, toujours en accord avec le Centre Alain Savary, nos propres orientations et opté, in fine, pour une méthode d'analyse permettant de dégager des éléments de compréhension plus largement transférables. Nous avons abandonné notre projet irréalisable d'une démarche participative à visée opérationnelle pour, partant de nos rencontres avec les professionnels de terrain, proposer un cadre d'analyse susceptible d'apporter des éléments de compréhension des mécanismes qui étaient à l'œuvre.
Alors, quelques éléments de définition maintenant. Donc, la définition du champ éducatif que nous avons retenu, puisque le champ éducatif, c'était quelque chose de large et il était nécessaire pour nous de le réduire si on voulait être pertinent dans l'analyse qu'on pouvait apporter. Donc, notre champ d'intervention sur ce territoire était sous le regard croisé des politiques de la ville, des politiques de l'éducation prioritaire et de la protection de l'enfance. Puisqu'il s'agissait pour nous d'aller à la rencontre des professionnels en lien direct avec les publics, notre définition du champ éducatif s'est construite à partir de l'entrée publique. Nous avons choisi de retenir la population d'âge scolaire en nous arrêtant à la limite définie par l'âge de la fin de l'obligation scolaire, c'est-à-dire 16 ans, la petite enfance et la jeunesse, c'est-à-dire les 16-18 et plus, sont donc volontairement exclus de ce travail. La définition du partenariat, maintenant, puisque la commande nous parlait à la fois des dispositifs partenariaux et du travail en partenariat. Donc, pour aborder la question du dispositif, nous avons choisi de retenir une définition de Philippe Liet qui nous dit « L'émergence d'une nouvelle logique d'action publique territorialisée dans les années 80 s'est traduite par le développement de nouveaux dispositifs en rapport avec l'action sociale. Cette situation a des effets considérables sur la logique des politiques publiques. Celles-ci apparaissent tout autant déterminées par les grandes orientations proposées au sommet que par l'interprétation qui en est faite par les acteurs locaux qui dispose d'une marge de manœuvre pour inventer des options qui peuvent actualiser de manière diverse les intentions des concepteurs. L'analyse des politiques publiques ne peut sans doute faire l'impasse d'un recours à la sociologie des organisations pour rendre compte des processus à l'œuvre. Fin de citation. Pour ce qui est du travail partenarial, nous avons retenu une définition largement vulgarisée qui est celle de Fabrice Dume, qui nous dit « Une méthode d'action coopérative fondée sur un engagement libre, mutuel et contractuel d'acteurs différents mais égaux qui constitue un acteur collectif dans la perspective d'un changement des modalités de l'action, faire autrement ou faire mieux sur un objet commun, de par sa complexité et ou le fait qu'il transcende le cadre d'action de chacun des acteurs et élabore à cette fin un cadre d'action adapté au projet qui les rassemble pour agir ensemble à partir de ce cadre. » Fin de citation. Tout y est. Jean-Louis Sanchez, résume quant à lui l'articulation de ces deux phases du partenariat. Je cite « Alors que par définition, le dispositif provoque un mouvement descendant du politique vers l'usager, le développement social, donc le travail en partenariat, c'est vrai qu'on l'a associé au développement social, s'inspire au contraire d'une logique ascendante où le terrain, acteur, usager et habitant, nourrit les choix politiques. » Fin de citation.
Alors, l'accès au terrain. La rencontre avec les professionnels en lien direct avec les publics. Cette étude a choisi de donner une vraie place parmi les autres au personnel peu professionnalisé, en proximité directe avec les publics, mais dont le rôle n'a pas a priori de visée pédagogique ou éducative. À partir de la rencontre des professionnels en lien avec les publics, l'étude fait parler les métiers et les pratiques pour mieux comprendre les représentations et le ressenti des uns et des autres. Quelles caractéristiques pour notre échantillon ? Alors on voit là sur la diapo que nous avons fait donc un petit panel de 12 personnes dont l'institution était l'Éducation nationale. On verra dans la diapo suivante le détail. Et 8 qui étaient hors Éducation nationale, ce qui pouvait recouvrir un champ large d'agents municipaux divers et variés, conseil général, associations. Cet accès au terrain nous a été rendu possible par la voie institutionnelle, ce qui a eu un effet direct, on va le voir, sur les personnes rencontrées. En effet, dans le cadre d'un travail d'étude, la rencontre avec les professionnels est forcément conditionnée à une autorisation de l'institution de tutelle. L'échantillon s'est donc construit, d'une part à partir de nos attentes, c'est certain, mais d'autre part à partir des choix opérés par les responsables institutionnels. Afin d'obtenir une représentation plurielle, tant au niveau de l'approche métier que de l'approche institutionnelle, il nous fallait rencontrer des professionnels œuvrant dans le champ scolaire, mais aussi dans celui de l'éducation au sens large, de l'animation, de l'action sociale. Par ailleurs, l'objet d'étude se trouvant au cœur des interactions entre ces différents champs, une attention particulière devait être portée sur les aspects interactifs des institutions dans le cadre des différents dispositifs, mais aussi des professionnels dans leurs pratiques. L'éducation nationale. Alors, pour ces 12 personnes de l'éducation nationale, deux écoles ont été retenues en amont par l'IEN pour accueillir notre travail d'étude. Informées par leur hiérarchie de l'étude commandée par le centre Alain Savary, le principal du collège de la commune et les directeurs d'école nous ont reçus, nous ont guidés auprès de professionnels travaillant dans leur établissement. Le fait que l'ensemble des entretiens ait été ciblé sur 3 établissements a permis de rencontrer, sur chacun d'eux, des représentants de l'ensemble des acteurs constituant la chaîne éducative, du responsable d'établissement en passant par les enseignants, sans oublier l'ATSEM ou l'adulte relais. Municipalité et politique de la ville. Côté ville, l'échantillon s'est construit à partir de rencontres souhaitées mais fléchées vers des professionnels de l'animation périscolaire et de la bibliothèque. Les entretiens souhaités avec des animateurs de centres sociaux, les référents PRE, n'ont pu être réalisés, faute de réponse à nos sollicitations. Les rencontres avec un intervenant artistique dans une école, avec une ATSEM dans une autre, se sont déroulées sans accord préalable de leur responsable institutionnel, ce qui nous sera reproché par ce responsable. La rencontre au collège avec l'adulte relais n'a pas nécessité d'autorisation particulière, puisque c'est le principal qui l'avait orienté vers nous. Pour les professionnels relevant d'autres institutions que de la municipalité et de l'éducation nationale, l'assistance sociale du Conseil général a été spécifiquement orientée vers nous par son responsable, car il était identifié comme investi d'une mission partenariale avec le CUCS et le PRE. Nous avons rencontré d'autre part l'équipe éducative, deux éducateurs et leur chef de service, de prévention spécialisée associative, en réponse à notre demande d'entretien avec un éducateur.
Donc à partir de là, nous pouvons voir, essayer d'analyser un petit peu les limites de cet échantillon. L'échantillon qui alimente cette étude est biaisé du fait de la forte implication des institutions dans sa définition. On n'a pas eu un véritable libre accès au terrain. On nous a un petit peu prescrit les personnes qu'on pouvait ou qu'on devait rencontrer. Nous constatons que plus les responsables hiérarchiques et ou techniques travaillent en proximité des professionnels en lien avec les publics, école, collège, prévention spécialisée, plus l'accès à ces derniers a été facile. Plus les responsables hiérarchiques et ou techniques sont éloignés, ville, conseil général, plus l'accès a été difficile et ou ciblé. Nous constatons également que plus ces responsables sont proches des instances qui les missionnent, techniciens des politiques de la ville notamment, plus ils cherchent à contrôler les professionnels dont ils sont dans la pratique éloignés, mais dans les faits responsables. Dans tous les cas, si l'on accepte l'intervenant artistique et l'ATSEM, nous avons été orientés vers des professionnels repérés ou choisis par leurs responsables. L'accès à un certain nombre de professionnels n'a pas été possible. Nous n'avons pas pu obtenir d'entretien avec un animateur du centre social, pas plus qu'avec un responsable de cette structure. Ce système interne est resté fermé à notre proposition de rencontre. Le sous-système que représente le PRE, coordinateur et référent, également. Les systèmes internes s'avèrent plus ou moins poreux, leur accès plus ou moins réglementé. L'autonomie des professionnels en lien avec les publics est donc largement dépendante de cette structuration. Une première hypothèse, à partir de la construction de cet échantillon, se dégage. Le travail en partenariat des professionnels en lien direct avec les publics est soumis à la structuration des systèmes internes dont ils dépendent. Plus le système est réglementé, plus les responsables contrôlent les pratiques, définissent les tâches et sont éloignés du terrain, moins les professionnels en lien avec les publics sont susceptibles d'accéder au travail en partenariat.
Le travail d'entretien lui-même. Muni d'un guide d'entretien préalablement construit, nous avons fait le choix d'entretien semi-directif en nous efforçant de laisser à notre interlocuteur le temps nécessaire à un travail réflexif et la possibilité de développer les axes qui lui apparaissaient prioritaires. L'ensemble des entretiens a été mené sur le lieu et pendant le temps de travail des professionnels, à l'exception notable de l'animateur périscolaire qui, sans avoir eu de temps dégagé par son institution, a eu cependant l'injonction de nous rencontrer. Nous pouvons supposer que si nous avons pu rencontrer la TSEM et l'intervenant musical sur leur temps de travail, c'est grâce non à leur institution de tutelle, non informée en amont de ces entretiens, la mairie, mais grâce aux directeurs d'école qui ont permis ces rencontres. Nous regrettons de n'avoir pu rencontrer de professeurs des collèges, hormis un préfet des études. Les professionnels que nous avons rencontrés se définissent pour la plupart plutôt à partir de leur travail et de son lieu d'exercice qu'à partir de leur appartenance institutionnelle. Ce qui fait sens pour eux dans l'action, c'est le lieu d'exercice de leur pratique, leur équipe de travail et non l'institution à laquelle ils sont rattachés. La dépendance institutionnelle impacte la pratique donc, mais ne la détermine pas. En parallèle de ce travail d'entretien, nous avons participé comme observateurs à une réunion d'un groupe territorial CUX, réunissant des professionnels du champ éducatif et du champ social, piloté par la politique de la ville. Il nous est apparu, ce groupe-là, à cette réunion-là, comme un outil efficace et pertinent, facteur de lien direct entre partenaires, vecteur de concertation.
Alors un tout petit point sur la méthode que nous avons utilisée pour notre travail d'analyse. Donc c'est une méthode qui s'inspire de celle utilisée par Vincent de Golejac, Michel Bonetti et Jean Fraisse dans un ouvrage qui s'appelle L'ingénierie sociale qui a été publié en 89. Ne le cherchez pas, il est en rupture d'édition. Je cite... D'un point de vue stratégique, le moment de l'analyse permet de confronter les points de vue, d'identifier les points de désaccord et les sources de conflits avant de les traiter. Ce travail de clarification et d'explicitation évitera que l'on ne découvre ces conflits au moment d'engager l'action, ce qui risque d'hypothéquer gravement les chances de réussite. Fin de citation. Le contexte dans lequel s'est déroulée cette étude, tout autant que la parole recueillie auprès des professionnels, nous ont conduit en effet à opter pour une méthode susceptible d'apporter un éclairage sur les jeux d'acteurs. Il s'agissait pour nous de nous doter d'outils permettant de mieux comprendre l'impact des organisations sur le travail des professionnels en lien direct avec les publics, pour, in fine, pouvoir proposer des pistes d'amélioration possibles du travail en vue d'une optimisation des missions de chacun, c'est-à-dire d'un mieux vivre pour les publics destinataires de l'action. La méthode d'analyse que nous avons choisie, largement développée dans le cadre de notre rapport d'étude, distingue quatre niveaux qui s'articulent les uns avec les autres. Dans le cadre de cette présentation, nous préférons, partant de cette méthode, prioriser le travail d'analyse auquel il nous a conduits. Ainsi, nous vous présentons dans un premier temps les logiques des professionnels, comment ils perçoivent les instructions et directives émanant de leur hiérarchie, ainsi que les conditions de travail qu'elles leur créent, ce que nous appelons le descendant, c'est-à-dire l'impact des institutions sur le travail des professionnels avec leur public comme avec leurs partenaires. Le deuxième temps sera celui du travail en partenariat que nous terminerons, troisième temps, par ce que nous repérons comme le temps de l'innovation, un temps parfois hors temps professionnel, à la marge du temps institutionnel, celui du travail ensemble. Cela nous permettra une approche des dynamiques auxquelles il contribue et qui les dépasse dans le même temps. Nous essayerons de décoder ainsi des dynamiques ascendantes et descendantes.
Le travail d'analyse. Avant tout travail d'analyse, nous souhaitons relever le fait que notre travail d'enquête a été l'occasion de belles rencontres avec des professionnels, du principal de collège à l'ATSEM, en passant par l'adulte relais, la CPE, l'assistant social de secteur ou scolaire et autres professeurs des écoles, éduques de prêve ou animes de bibliothèque, engagés dans leurs pratiques et porteurs de valeurs sociales et éducatives. Les regards, certes, ne convergent pas. Certes, la vision du travail éducatif pour des acteurs qui en partagent pourtant le champ est pour le moins polychrome. Mais ce patchwork de regards a pour dénominateur commun la volonté de chacun, à partir des publics pour lesquels il est missionné, mais aussi au travers du prisme de l'institution qu'il missionne, d'apporter sa pierre à l'édifice, d'œuvrer pour une reconnaissance de chacun au bénéfice de tous. Ce qui diffère est une question de forme plus que de fond. S'ils nous ont fait part, au-delà des difficultés vécues avec plus ou moins d'impact avec leur public, les enfants et les jeunes dont ils ont la charge, des difficultés vécues avec leurs institutions de tutelle ou dans la complexité des liens interinstitutionnels, ces difficultés ont toujours relevé d'entraves à leur mission telle qu'ils la vivent et la portent, jamais en termes de revendications corporatistes ou carriéristes. Nous n'avons pas relevé, au cours des entretiens menés, de stratégies d'acteurs mesurant leurs paroles en fonction d'enjeux réels ou supposés, mais avons eu le sentiment d'avoir le privilège d'être dépositaires de la parole de professionnels peu reconnus dans leurs pratiques et espérant, par leurs témoignages, participer à l'avancée de l'intérêt général. Nous allons vous présenter notre analyse en trois points. Le premier point, ce sera, comme apparaît sur la diapo, le descendant, donc les logiques institutionnelles. Le deuxième point, le temps du travail en partenariat. Et le troisième point, l'ascendant, innover ensemble.
Donc, parole aux professionnels. Donc, le descendant, les logiques institutionnelles. Les contraintes institutionnelles, les conditions d'exercice de la pratique pèsent sur les professionnels de terrain. Les dysfonctionnements repérés empêchent les professionnels de bien accomplir leur travail et sont donc vecteurs de prise en charge inadaptée des publics. De la prise en charge des enfants roms à celle des primo-arrivants,
pour solliciter un traducteur,
s'insurge l'enseignante UP2A.
Au niveau de l'éducation nationale, il faut faire un courrier, attendre 3 semaines la réponse.
À celle de l'enfant en situation de handicap, l'école ne peut répondre à sa mission d'inclusion malgré la volonté des professionnels de tout mettre en place pour cela.
Il y a des enfants qui ont des troubles du comportement sévères,
explique un directeur d'école.
Avec des troubles autistiques qui ne supportent pas la collectivité et on leur impose ça. Les parents sont malheureux, l'enfant est malheureux et nous, il nous faut 1 ou 2 années pour monter le dossier MDPH.
Les nouveaux rythmes scolaires contraignent les enseignants à partager leur classe avec les animateurs périscolaires.
Par exemple,
confie une enseignante,
le soir, si j'ai besoin de rester travailler dans ma classe, préparer mon travail, il y a en même temps 2 groupes, donc c'est dans le bruit. C'est moyen, mais on n'a pas le choix. C'est la mairie le propriétaire des lieux, on doit partager les locaux.
Pour la TSEM, le partage de l'espace devient une atteinte directe au travail du professionnel. Lorsque les chasses d'eau ne sont pas tirées le vendredi soir, ou encore...
Quand on voit que parfois la classe est plus sale en 1 heure et demie d'activité que pendant toute une journée, bon...
Sur ces espaces multifonctionnels, les professionnels, comme les enfants, ne s'y retrouvent pas. Les articulations ne sont pas pensées, et donc la prise en charge des enfants est segmentée, empêchant toute visée éducative, partagée et construite. Les parents ne s'y retrouvent pas non plus, interpellant par exemple la maîtresse pour faire part de difficultés vécues sur le temps périscolaire. Principal du collège et directeur d'école plaide pour une autonomie plus grande des établissements scolaires.
Il faut donner des moyens, bien sûr, mais au-delà des moyens, c'est la marge de manœuvre qu'il faudrait qu'on ait, notamment du point de vue des programmes. Il faut un programme cadre plus basé sur le commun de culture et de compétences, et puis beaucoup plus de liberté dans la façon d'organiser les choses. On a cette liberté, mais sa mise en œuvre est très compliquée. On reste quand même sur un modèle fin 19e, 1 heure, un prof, une classe. Si on bouge, c'est compliqué. Est-ce que ça va être valorisé? Je pense que dans la refondation de l'éducation prioritaire, on n'est pas allé assez loin dans cette réflexion de fond.
Analyse le principal d'un collège, vous en étiez rendu compte. Un directeur d'école le confirme.
C'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pour ça que je plaide pour une petite autonomie de l'école et qu'on passe établissement. Aucune autonomie, ni pédagogique, ni financière, ni rien.
Lorsque des dispositifs permettent de penser les articulations au bénéfice des élèves, sur le principe, cela apparaît comme positif, même si la mise en œuvre reste compliquée et peut décourager certains. Le principal du collège pointe un paradoxe.
On a ou on avait pendant 3 ans l'action journée éducative. C'est une action qui n'a jamais trouvé son calage. On a beaucoup cherché, testé, expérimenté, mais on constate que c'est pas un système efficace. Pourtant, maintenant que ça n'a plus lieu, on en ressent le besoin. Tant que ça existe, on peut dire que c'est une usine à gaz. Et quand ça n'existe plus, on constate que c'était intéressant d'avoir ça dans la panoplie. Parce que ça nous oblige à nous décentrer par rapport à des situations complexes. Ça force à la mise en commun, c'est-à-dire supporte le regard extérieur, y compris sur ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Pour trouver des solutions, ça forçait à l'autocritique. On a trouvé le format, il faut que l'on retravaille le contenu. Le plus intéressant, c'est dur de dire ça, c'est que ces actions-là nous obligeaient à partager les problématiques avec des partenaires extérieurs à l'éducation nationale. Nous arrivons au point numéro 2, le temps du travail en partenariat. Ce que nous avons pu repérer, c'est que chaque institution fonctionne avec sa propre logique et ses propres contraintes. Sur le terrain, il appartient aux professionnels de travailler avec et malgré des organisations qui ne répondent pas forcément aux situations singulières rencontrées, aux problèmes tels qu'ils se posent. Les cadres d'intervention ne permettent pas la prise en compte des besoins spécifiques. C'est parce qu'ils sont confrontés à des problématiques non prises en compte par leur institution de tutelle que les professionnels vont devoir aller chercher des ressources auprès d'autres acteurs, souvent en prenant sur leur temps personnel, souvent en dehors des chemins fléchés. si l'on excepte les travailleurs sociaux, pour qui le travail en partenariat fait partie des injonctions institutionnelles et est vécu comme intrinsèque à la mission, le travail en partenariat est sinon pour les autres un impensé institutionnel. C'est dans la marge qu'il se construit pour ceux qui choisissent de le mettre en œuvre. Il relève de l'engagement professionnel et fonctionne à partir des bricolages construits sur le terrain. Le fait qu'il ne soit pas reconnu par les institutions empêche qu'il soit valorisé et est soumis au bon vouloir des professionnels qui le mettent en œuvre hors temps professionnel dédié. Afin de pouvoir être en relation avec les partenaires souhaités, malgré le manque de temps, les professionnels s'engagent parfois sur leur temps personnel dans une proportion qui peut être importante. Ainsi l'enseignante Cliss.
Je suis à 75%. Le jeudi, je travaille pas. Alors cette journée-là, je la passe à préparer mes cours, à téléphoner.
Certaines Cliss ont du temps pour ces liens partenariaux. Elles, non, n'en avaient pas. De même, l'enseignant en maternelle prend systématiquement contact avec l'orthophoniste, mais hors temps de travail.
Elle me dit, je travaille sur le lexique, moi sur autre chose, c'est que sur du temps personnel.
Le partenariat culturel et artistique entre les structures présentes sur la commune et les écoles existe de manière forte sur ce territoire, mais il n'y a pas de temps dégagé pour les échanges entre partenaires.
C'est tout de l'informel,
témoigne l'intervenant artistique dans les écoles.
Dans certaines communes, il y a 3 heures par semaine pour de la concertation. Parce que tu as 12 classes, il faut que tu vois 12 enseignants. Ici, sur des temps informels, pendant le midi, sur du temps personnel.
La tâche primaire occupe l'essentiel, voire pour certains la totalité du temps de travail. Ainsi, pour les professionnels de l'éducation nationale, le manque de temps pour pouvoir travailler ensemble, même en interne, est un problème récurrent. Une enseignante élémentaire confie.
On n'a pas le temps. La coordination, rien qu'entre nous, prend un temps fou. Se rajoute à cela les conseils de cycle, où on parle de pédagogie, mais aussi de comportement, les conseils des maîtres, les conseils d'école.
Ce que confirme une directrice d'école, pour arriver à travailler ensemble, à construire des projets, à se concerter...
On mange ensemble à midi pour réfléchir.
Le temps du travail en équipe, comme celui du travail en partenariat, est informel, souvent, pris sur du temps personnel. Le volume horaire annuel de travail dédié par l'éducation nationale aux enseignants pour ce travail est épuisé dès le mois de janvier. Après, il faut se débrouiller. De ce fait...
Le partenariat, c'est en 10e position dans les priorités d'un enseignant.
Remarque une enseignante de CM1. Atsem et cuisinier partagent cette réalité d'une activité dédiée à une tâche précise qui limite fortement les relations professionnelles.
Quand on est tous les jours dans son monde...
Résume le cuisinier du collège.
Même si on essaye de faire les choses bien... Au bout d'un moment, on est enfermé dans son truc. Alors maintenant, dernier point, l'ascendant, innover ensemble. Malgré un cadrage fort, malgré les difficultés rencontrées, les professionnels, lorsqu'ils en ont la possibilité, travaillent ensemble dès lors que l'intérêt de leur public en dépend. Par ailleurs, travailler avec d'autres est souvent vécu comme un enrichissement des pratiques et une bouffée d'oxygène.
Ça a embêté le PRE,
déplore l'animateur bibliothèque.
Qu'on fasse cette démarche, ils pensaient qu'on empiétait sur leur mission. Le PRE dit qu'ils connaissent déjà cette famille, qu'ils étaient en train de leur proposer des choses et que surtout la famille n'adhérait pas à ce que le PRE proposait. Mais c'est vrai que leur système est très compliqué à comprendre. C'est lourd leur système. Beaucoup plus que ce qu'on a mis en place, nous, pour la famille. Nous, il n'y a pas d'écrit, on accueille, on met en relation.
Entre initiative et engagement personnel, le partenariat est mis en œuvre à partir de modalités qui leur appartiennent. Les animateurs de la bibliothèque et l'enseignante Cliss, trouble du comportement, ont mis en œuvre une première collaboration cette année à la demande de l'enseignante. L'échange, la préparation et la réalisation de cette action ont été fructueux.
Ça s'est très 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 bien passé.
Se réjouit l'animateur bibliothèque.
L'enseignante m'a redemandé de travailler avec elle sur un autre projet, j'ai dit oui.
L'enseignante UP2A a travaillé avec le Centre d'art plastique et la bibliothèque en partenariat direct, facile à enclencher, sans nécessité d'une demande particulière. Devant la difficulté des enseignants, souvent de trouver du temps pour la concertation avec les partenaires, les directions, témoignent un directeur d'école, sont en soutien et tentent de trouver des aménagements.
On fait des petites esquives pour que les enseignants y perdent pas trop, trouver des arrangements pour les motiver.
Ce témoignage, comme d'autres, montre que les choses s'organisent avec la complicité, voire à l'initiative des responsables à l'intérieur des systèmes internes. Le travail en partenariat relève de la clandestinité, puisqu'il se développe en marge des institutions. L'ensemble des exemples qui nous ont été rapportés ne sont ni généralisables ni transposables, puisqu'ils restent expérimentaux et limités à un travail d'acteurs de terrain. C'est sans doute le regard porté par les institutions sur le travail en partenariat, c'est-à-dire au-delà des moyens mis au service des dispositifs, le déficit de moyens mis au service des professionnels et de leurs besoins tels qu'ils les identifient, qui pose problème. Si le travail en partenariat n'est pas reconnu par les hiérarchies comme nécessaire à l'activité, il appartient alors au bon vouloir de professionnels dont l'intérêt à l'engager peut être diversement apprécié. Le travail en partenariat repose alors sur l'engagement d'acteurs et ne peut se construire dans la durée.
Voici venu le temps des pistes de réflexion et d'action. Donc nous avons dégagé des pistes de réflexion et d'action qui, dans le cadre de cette étude, sont le fruit de notre rencontre avec les acteurs, ceux qui étaient en lien direct avec les publics. Nous souhaitons apporter aux institutions du matériau de terrain qui permette d'adapter l'organisation aux réalités des professionnels et aux besoins des publics. L'impact des dispositifs partenariaux et du travail en partenariat, leur efficacité, doit se traduire en plus-value sur le terrain de l'action. Seuls des acteurs engagés dans leur pratique et légitimés dans leur mission sont à même de repérer et de décliner en termes opérationnels cet objectif. Les quelques pistes d'action que nous proposons nous viennent directement des professionnels rencontrés. Notre étude ne peut rendre compte que des besoins exprimés dans le cadre des systèmes internes que nous avons rencontrés. Il s'agit également de rendre justice aux professionnels en les reconnaissant dans leur capacité d'expertise et d'analyse de leurs besoins. Nous retenons 5 pistes indépendantes les unes des autres, mais cependant complémentaires.
Donc la piste numéro 1, c'est l'analyse des pratiques. Donc c'est quelque chose dont on a entendu parler à plusieurs reprises, notamment dans une école où l'équipe des enseignantes souhaitait cette analyse de la pratique. Et du coup, les professionnels se sont organisés sur un temps hors professionnel et en payant elles-mêmes leur analyse de la pratique. Donc c'était vraiment... Et une vraie demande d'analyse de la pratique. On a eu également cette demande, c'était une CPE qui disait « il y a des groupes d'analyse de la pratique qui existent, l'assistante sociale y participe, mais analyse de la pratique pour les CPE, il n'y en a pas, ce serait pas mal et j'y adhérerais ».
La piste numéro 2, le temps. Que les institutions dégagent du temps professionnel, celui-ci, pour permettre aux professionnels de terrain de travailler ensemble afin de partager les différentes approches, ouvrir à la construction de réponses articulées et ajustées aux besoins des publics et de leur territoire. C'est nécessaire pour plus de cohérence et de compréhension.
Troisième piste, l'autonomie et la valorisation des expériences et de l'expertise. Si les travailleurs sociaux se vivent comme relativement autonomes dans leurs pratiques, les acteurs de l'éducation nationale regrettent dans leur ensemble un manque d'autonomie et le poids de directives qui empêchent les dynamiques d'acteurs et la prise en compte des besoins des publics tels qu'ils le vivent. Ce qui se vit dans la marge, ce qui se bricole sur le terrain, mériterait d'être reconnu et valorisé afin d'optimiser, à partir de l'expertise et de l'expérience des professionnels, les prises en charge et de développer les ponts entre les différents partenaires de la communauté éducative.
La piste numéro 4 concerne la formation. Un enseignant élémentaire nous disait que le plan de formation pourrait aider sur cette thématique du partenariat ou celle de la gestion des enfants difficiles ou celle du travail en collaboration avec le PRE, plutôt que de proposer un thème comme comprendre la littérature enfantine. Fin de citation. Au-delà de cette formation au partenariat, nous préconisons des formations transversales qui, à partir d'un territoire ou d'une problématique, favorisent l'acculturation des acteurs et donc l'évolution des représentations pour une meilleure articulation des missions de chacun.
Cinquième et dernière piste proposée, renforcer la dynamique évaluative. Nous avons vu à travers l'observation d'un groupe territorial CUX qu'un dispositif bien pensé sur un territoire bien investi par les acteurs, pouvait avoir un impact réel et plutôt positif sur les pratiques partenariales. la mise en place de nouvelles formes de communication produisant de l'interrelationnel et du partage de connaissances facilite le travail de chacun en permettant à l'information de bien circuler et aux professionnels de se rencontrer. Ce que l'on veut pour les habitants d'un quartier devrait pouvoir d'abord s'expérimenter au niveau des facilitateurs du développement social, à savoir les partenaires. Les structures sur le terrain pourraient solliciter l'expertise des institutions pour devenir véritablement ressources, c'est-à-dire les inviter à écouter les besoins du terrain identifiés avec les prestataires. Ainsi, proposer et ajuster des moyens et dispositifs adaptés. Je vous promets, je ne fais pas de pub pour le DEIS.
Conclusion. Le partenariat éducatif ne se décrète pas, même si les institutions mettent en place des dispositifs publics et des moyens pour cela. Ces dispositifs sont déterminés dans des lieux de décision éloignés du terrain et de ses besoins. Ces dispositifs publics ne créent pas des conditions favorables au travail des professionnels. Ceux que nous avons rencontrés improvisent, en dehors du cadre, leurs propres solutions de travail. Nous pouvons penser que ces écarts peuvent mettre en difficulté des professionnels dans l'exercice de leur mission. Nous pourrions trouver là une des explications au turnover pointé par nombre de nos interlocuteurs.
Pour qu'un partenariat produise, et nous reprenons les auteurs de l'ingénierie sociale, il est nécessaire que les trois niveaux, action de terrain, responsable de service, niveau politique, fonctionnent en interne de chacune des institutions et entre les institutions. Sans quoi, le partenariat de terrain se trouve limité, car faute de pouvoir légitimer et fixer le fruit du bricolage des professionnels de terrain, ceux-ci s'épuisent rapidement.
Si tout le monde est bien d'accord pour affirmer la plus-value du partenariat, nous avons montré qu'il ne suffit pas pour sa mise en œuvre d'effets d'annonce, de discours incantatoires sur un système symbolique de travail en commun par-delà les structures. Comment décentrer les acteurs de leur jeu hiérarchisé actuel, les décideurs, les directions, les professionnels, les publics. Comment favoriser les échanges circulaires à la recherche de solutions adaptées aux besoins du public? C'est en répondant à ces questions que les publics et les institutions pourront ensemble construire des outils utiles aux enjeux qu'ils partagent. Les professionnels de terrain sont les nécessaires médiateurs de ce défi sociétal.
Nous vous remercions pour votre attention et sommes prêtes à répondre à vos questions et surtout à écouter vos témoignages.